Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Après Vibra Soez, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous nous suivez sur internet graphite.net, sur la bande FM 94.9 et sur Facebook Live. Pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Graphite, vous pouvez liker en même temps la page, ce qui fera monter notre compteur et ça sera très bien. Merci de nous écouter, merci de nous être fidèles. Biotine tous les samedis parle de l'actualité scientifique. Samedi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Alors du coup, aujourd'hui, ça va être un petit peu notre fête. C'est en fait le 13 février 1946 qui est le jour de la création de la radio des Nations Unies. Et donc du coup, comme ça a été créé un 13 février, les Nations Unies ont décidé de faire de cette journée du 13 février la journée mondiale de la radio. Et donc, c'est un peu notre journée à nous. On va en profiter. Le 13 février 1935, c'est la naissance de la première chaîne française radio PTT Vision. 1935 quand même. C'est assez ancien finalement. Beaucoup plus proche de nous, il y a 2 ans, la NASA confirme la perte de Opportunity 15 ans après son atterrissage sur Mars. On en avait parlé en 2019, un 13 février. Qui est né un 13 février? Eh bien, c'est Joseph Banks, né le 13 février 1743. C'est un naturaliste britannique passionné de botanique qui va participer au premier voyage de James Cook autour du monde dans les années 1770. Cet aristocrate foncier qui est un peu imprégné des idées de progrès va devenir le grand patron des sciences britanniques de la fin du XVIIIe siècle. Il est à la tête de la Royal Society pendant plus de 41 ans. Tu m'étonnes, Joseph Banks. Il réussit à infléchir l'étude des sciences naturelles vers les applications pratiques au service du développement économique de l'Empire britannique. C'est lui, Joseph Banks, qui va introduire en Europe l'eucalyptus, le mimosa, et il fut le premier à ramener des spécimens de kangourous. Il est donc né un 13 février 1743 à Londres, Joseph Banks. Et qui est mort un 13 février? Eh bien, on est à peu près dans la même époque, hein, 1787. Il s'agit de Roger Joseph Boscovitch, qui est un prêtre jésuite dalmate qui était mathématicien, physicien, astronome, diplomate, poète, philosophe. Il est multicarte, cet homme. Il est né dans la République de Ragouze. Il passe la plus grande partie de sa vie active à Rome. Il travaille aussi à Paris. Il meurt à Milan. Il meurt en tant que sujet du roi de France. Et il meurt donc un 13 février 1787. Et oui, en France, ça commençait à devenir un peu chaud-bouillant finalement. Le 13 février 1787, décès donc de Roger Joseph Boscovitch. Je voulais, pour démarrer cette émission, évoquer cet article de Futura Science qui est finalement assez intéressant par rapport à l'époque que l'on vit depuis un an maintenant avec la crise sanitaire et le fait que finalement on a pas mal parlé de science et pas mal entendu parler des scientifiques également. Et avec cette question qui est « mais pourquoi ?» on a parfois l'impression que la science se contredit. Pourquoi se contredit-elle la science? Eh bien, cet article est assez intéressant et j'ai envie de l'évoquer avec vous en préambule de cette émission. C'est un article assez long, mais finalement qui condense un petit peu toutes les notions que l'on doit savoir sur ce qu'est la science. La science qu'on en parle bien sûr souvent, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, quels sont ses objectifs et on ne sait pas non plus vraiment ce qu'elle nous raconte. Une idée populaire dont on ne trouve pas de source précise pour la justifier suggère que la population ne comprendrait pas pourquoi la science se contredit. Mais parce que la science, c'est la science, en fait. Et cette idée, elle est là. Notre société est fondée sur ses apports scientifiques. Alors, comment on pourrait se dire qu'elle dit tout et son contraire? C'est dans la perspective où ce type de pensée serait réellement ancré dans l'esprit de nous tous qu'il convient d'ajouter un soupçon, un petit peu de nuance à cette histoire, et c'est ce qu'explique cet article. Alors, l'article met bien en avant que parler de science et de concepts scientifiques, c'est assez compliqué. Et donc, cet article est un exercice de vulgarisation, donc de simplifier à l'extrême pour définir la science en quelques lignes. Il y a ceux qui étudient la science qu'on appelle les épistémologues qui pourraient remplir des livres entiers dans la bibliothèque sur cette simple question. Et donc, du coup, on va essayer de prendre des concepts simples pour bien comprendre pourquoi la science est amenée parfois à se contredire. Premièrement, il faut distinguer ce qu'on appelle le corpus, c'est-à-dire l'ensemble des théories admises de la science actuelle d'un côté, et distinguer de l'autre la pratique scientifique, même si bien sûr tout est intimement lié. Alors, pour schématiser, le corpus, c'est ce qu'on a appris à l'école, à l'université. Généralement, ce sont les théories classiques avec ce qu'on appelle des paradigmes scientifiques, des théories scientifiques dominantes, des connaissances centrales qui sont associées à ces paradigmes. C'est figé, c'est comme ça. Par exemple, vous savez que rien ne se dépasse plus vite que la lumière, et on se rappelle que cette conclusion émane de la théorie de la relativité générale d'Einstein, bien sûr. Et à contrario, donc de l'autre côté, l'exercice scientifique, lui, se base généralement sur les théories déjà admises pour produire des hypothèses et aussi de produire un petit peu des designs expérimentaux sur des questions qui se posent encore aujourd'hui afin de pouvoir apporter une réponse. Et c'est pour cela que ces fameux corpus un peu dogmatiques sont régulièrement mis à jour. Il y a de nouvelles connaissances qui émanent de l'exercice scientifique et qui vont rajouter des éléments à ces théories de base. Et parallèlement, les nouvelles théories enrichissent aussi l'exercice scientifique, donc ça va dans un sens et dans l'autre, grâce aux nouvelles questions que les découvertes permettent de formuler. Et c'est dans l'essence même de l'exercice scientifique qu'on peut amener des contradictions à une théorie qui a été validée. Actuellement, lorsque les chercheurs font de la science, ils tentent continuellement de tester leurs hypothèses avec une démarche expérimentale, et une étude ne suffit jamais pour conclure. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs expérience, une multiplicité des résultats, une puissance statistique suffisamment robuste pour cela. Et donc, concernant la pratique, il n'est pas surprenant de la voir un peu se contredire, de proposer plusieurs explications pour un même phénomène avant de posséder des données qui proviennent d'expériences. Et plus on va accumuler des expériences, plus on va accumuler des données, plus on pourra en tirer des conclusions. Ce qui surprend généralement, plus nettement, c'est lorsque la pratique scientifique vient contredire les connaissances théoriques du corpus de base. Et si on n'est pas sensibilisé à cette question, ça peut troubler, en fait, quelque part. Si la pratique scientifique, elle a la capacité de venir modifier des connaissances qui proviennent de théories admises, qu'elle a elle-même instaurées comme telles, alors quelle image on envoie de cette fameuse fiabilité ? Si la science change d'avis comme de chemise, c'est un petit peu particulier. C'est justement ce qui fait justement sa grande qualité pour produire ce que nous appelons communément des connaissances. C'est-à-dire que ce que l'on a pu valider un temps T peut être parfois contredit, complété un temps T plus 1, c'est-à-dire après. Et selon une thèse assez répandue en philosophie des sciences, aucun énoncé scientifique n'est intouchable, pas même les lois logiques et mathématiques. L'image, en fait, assez classique pour se représenter la connaissance qu'on a de cette théorie de base, c'est d'imaginer une toile d'araignée. C'est-à-dire qu'il y a des énoncés logiques et mathématiques qui sont au centre, et la valeur d'une connaissance réside un petit peu dans cette toile d'araignée tout autour, avec ses interactions qui peuvent des fois faire évoluer et bousculer l'ensemble. Il n'y a pas de socle, il n'y a pas de fondement à la connaissance scientifique. Et donc, il faut toujours essayer d'accepter qu'il y ait une révision, justement, de certains concepts de base. Et l'un des exemples qui peut être mis en avant, c'est bien sûr les théories d'Einstein qui, finalement, ont pu apporter une certaine contradiction, ou en tout cas un angle de vue assez différent par rapport à ce qui existe. En fait, cet article, il permet de bien comprendre que il y a une connaissance scientifique de base et il y a aussi une science qui avance et une recherche qui, comme je l'ai dit très souvent dans cette émission depuis maintenant plusieurs mois, une science qui doit prendre son temps pour pouvoir apporter des connaissances complémentaires, supplémentaires. Et ces connaissances nouvelles peuvent parfois mettre à mal une théorie de base qui a été établie et admise parce qu'elle est installée depuis un certain temps. Et en fait, c'est un petit peu cette interaction entre le corpus, comme on le dit, cette théorie que l'on a au départ, et cette science qui avance et qui évolue aujourd'hui, qui ces interactions peuvent parfois nous troubler parce que remettent en question également certains concepts qui nous étaient habituels. Aussi, cet article est assez intéressant et je vous invite à le lire en profondeur parce que là, je vous en ai fait un petit résumé sur le site de Futura Science. L'idée est de se dire que si on souhaite apprendre à trouver des nouvelles solutions thérapeutiques. Et si on souhaite essayer d'être dans une société de progrès, il faut bien évidemment apporter un lot de connaissances supplémentaires. Et c'est ça, la recherche scientifique. Sauf qu'il faut admettre que ces connaissances supplémentaires peuvent parfois mettre à mal une hypothèse de base et d'un concept scientifique que l'on avait pu juger immuable. C'est un petit peu ce qui se passe depuis quelques temps, notamment dans le domaine médical, avec cette crise pandémique. C'est-à-dire qu'on est en plus face à une société qui vit dans l'instant également et qui du coup ne peut difficilement pas admettre que l'information ne soit pas instantanée. À l'heure où tout doit être instantané, il est difficile d'admettre que une science se cherche encore et que l'on ne puisse pas trouver des réponses et apporter des solutions face à un virus qui arrive. C'est justement tout ça. La science, elle est fondamentalement basée sur une recherche qui doit prendre son temps pour pouvoir justement établir des lois fondamentales qui seront par la suite des socles puissants et solides pour pouvoir développer par la suite d'autres connaissances. Voilà grosso modo un petit peu la philosophie de cet article et un petit peu la philosophie de cette société que nous vivons actuellement, qui est de se dire que oui, la science peut se contredire parce que la science, elle est vivante. Et c'est tout l'intérêt justement de cette science vivante, à nous aussi de l'admettre et à nous également d'être patients, ce qui est dans nos sociétés actuelles est quelque chose qui demande un effort assez important, bien évidemment. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On va parler de l'actualité scientifique avec différentes informations, à la fois d'un point de vue technologique assez intéressant, à la fois sur des sujets de fond qui confirme encore que nous allons vers un réchauffement climatique de plus en plus accéléré. Et puis, on va parler aussi un peu d'avenir et on va écouter également un peu de musique. C'est tout l'intérêt de cette émission. On écoute Karl sur l'antenne de Graphite.
La limite est vague. 1000 visages ou une plage de sable. L'estacade est ma colonne vertébrale et ses quelques promeneurs rassemblés en petits tas de couleurs feront une belle carte postale. 1000 visages ou une plage de sable. La marée monte. Au rythme de mes sauts d'humeur, elle me lâche le bout du menton. Et lorsqu'elle redescend dans ma barbe, elle laisse des carcasses démaquillées. Des bouts d'épave au sous du lit recouvertes de mousse antéride. Des filles qui reviennent défigurées en rigolant. D'une marée trop arrosée, mille visages ou une plage de sable. Mille visages ou une plage de sable. Mille visages ou une plage de sable. faut remuer les pots et glousser dans les bistrots de la côte, décrocher les enseignes jubilaires et les remplacer par mes petits os. Pour faire comme des touches de piano, ça nous changera des néons fluo sous lesquels ta viande paraissait belle. Et les coups de poing partaient tout seuls aussi vite que des amuse-gueules. Mes visages ou une plage de sable, enterre-moi pour rigoler. De la tête aux pieds, je peux respirer dans les bulles. Je peux bricoler avec du brol, un équipement de plongée. Tu peux compter jusqu'à 3000 lorsque la marée m'aura drainé. Tu me retrouveras souriant dans un accoutrement ridicule, avec un morceau dans la tête de la compagnie créole. Mille visages ou une plage de sable. Les filles délaissées par la beauté peuvent venir se blottir dans ma suite. Je les ferai trembler dans mon bunker et ça se prolongera dans mes transats, dans l'eau qui stagne de mon nombril. Au mini-golf, je les ferai tomber au trou le plus difficile. Elles seront marquées de mon souvenir comme un coup de soleil qui insiste. 3-4 jours après les vacances, mille visages ou une plage de sable. Alors je leur ai dit, j'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. C'est embêtant ce soleil, qui pétille mes pupilles, qui croustille mes cils, et qui croque mes sourcils. Le soleil est en froid avec mes airs de gitouche, que dalle le cortège de crabes me démange. Les bras et les jambes et les promeneurs du dimanche me refont une beauté avec leurs petits pieds. Je laisse des bouts de verre traîner avec l'intention de blesser les chiens qui ne sont pas lâchés. Et les gros déguisés en fierté, les cerfs-volants peuvent claquer au vent. Ce sont mes invités. Venez saigner mes tympans, les seaux retournés sur la plage sont l'acné de mon visage. C'est le lendemain de la veille et j'émettrai à trier. J'attends la douche qui réveille. Je l'ai salé, je l'ai salé. Mille visages, une plage de sable. Dans leur plan d'architecte, ils me réaménagent en cinéma de quartier. Ils veulent me retrousser la mer, me saigner à ciel ouvert, pour dresser leur écran géant avec tous les soirs de grands visages projetés en noir et blanc. Mille visages ou une plage de sable. Mille visages ou une plage de sable. Vague.
C'est doux, c'est Karl sur l'antenne de Graphite avec mille visages ou une plage de sable. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique et vous avez bien raison. Nous avons parlé donc un petit peu de ce qu'était la science et pourquoi elle se contredit. Et là, on va parler d'une actualité qui finalement est assez récurrente dans cette émission. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle de ce réchauffement climatique et toutes les semaines, on a encore des illustrations concrètes qui nous prouvent justement que ce réchauffement climatique s'accélère. Pour la première fois, des chercheurs de l'université de Leeds au Royaume-Uni ont utilisé des données satellites pour étudier la fonte des glaces au niveau du globe. Une enquête qui concerne 215 000 glaciers de montagne, les calottes polaires, les plateformes de glace autour de l'Antarctique et la glace de mer, avec des conclusions peu rassurantes pour cette étude. C'est-à-dire qu'entre 1995 et 2017, la Terre a perdu 28 trillions de tonnes de glace. Alors, c'est quoi un trillion ? Parce que je me suis dit, voilà, je ne sais plus ce que c'est. Un trillion, c'est un milliard de milliards. C'est-à-dire qu'on a donc perdu, en environ 20 ans, une bonne vingtaine d'années, 28 milliards de tonnes de glace, à un rythme qui n'a cessé de s'accélérer. C'est-à-dire qu'on avait 0,8 trillion de tonnes par an dans les années 90 et là, on en est à plus de 1,3 en 2017. C'est du côté des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique que la fonte s'est le plus accélérée. Dans ces régions, nous suivons le pire des scénarios de réchauffement climatique définis par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est ce que précise Thomas Slater, qui est l'auteur principal de cette étude, dans un communiqué de l'Université de Leeds. Alors, au total, 7 milliards de tonnes de glace de mer ont été perdues du côté de l'Arctique, notamment du fait de l'augmentation de la température de l'atmosphère de près 0,3 degrés par décennie. Et on en a perdu à peu près une façon équivalente du côté des plateformes de glace de l'Antarctique, du fait cette fois aussi d'une augmentation, bien sûr, de la température de l'océan. Et la moitié de la glace perdue était de la glace continentale, une fonte qui a déjà fait monter le niveau des mers de 35 mm. Alors en soi, on se dit que c'est peut-être pas énorme. Attention, nous sommes dans une moyenne. C'est-à-dire que dans certaines régions, ça peut monter significativement. À ce rythme, l'élévation du niveau de la mer aura de graves conséquences sur les communautés côtières au cours de ce siècle. C'est ce que prévient Thomas Slater. Rappelons en effet que pour chaque centimètre d'élévation, c'est 1 million de personnes qui se retrouvent en danger sur le globe. Et donc, du coup, le fait d'avoir vu cette glace qui fond à une vitesse record fait qu'on perd de la glace, mais on gagne de l'eau, entre guillemets. Et du coup, l'élévation du niveau des océans va être assez dramatique. Toutes les semaines dans cette émission, enfin pas toutes les semaines parce que du coup, je me dis que ça ferait un fil rouge un peu anxiogène, mais il n'empêche, très souvent dans cette émission, nous avons des articles qui confirment justement ce que nous constatons. Et là, bien évidemment, on est dans une étude qui permettait d'avoir l'emploi de satellites pour pouvoir récupérer des informations. Et justement, on voit très bien que les technologies vont nous permettre de recueillir le plus de données possible avec comme finalité de pouvoir essayer d'avoir des simulations pour l'avenir de plus en plus précises du coup. Plus on a de données, je vais y arriver, plus on arrive à prédire ce qu'il va se passer. Et du coup, pour l'instant, les articles que l'on a et donc les données qui sont recueillies vont toutes dans le même sens. C'est-à-dire que, un, il y a un réchauffement climatique. Deux, ce réchauffement climatique s'accélère, en fait. Et quelque part, c'est ce point numéro 2 qui est essentiel. L'histoire de notre Terre montre qu'il y a eu des périodes de réchauffement climatique, de refroidissement, mais on était dans des périodes plus lente. Et là, ce qui est très troublant et ce qui est assez révélateur et constaté par ces différentes études, c'est que ce réchauffement climatique s'accélère. Et ça, c'est depuis maintenant plusieurs années qu'on en parle régulièrement dans cette émission. On le constate encore aujourd'hui. Et ce qui est toujours un autre constat, c'est que finalement, on a l'impression d'être impuissant face à cette situation qui devient de plus en plus alarmante et assez dangereuse, bien évidemment. Donc voilà, un article de plus. Je ne doute pas que dans les prochaines émissions, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Allez, on va parler un petit peu de technologie pour rêver un peu. Et le fait que demain, nous n'aurons plus besoin de nos interfaces sensorielles pour jouer. C'est-à-dire que les yeux, les mains, les oreilles, eh ben, ça sera plus nécessaire pour évoluer dans les scénarios de jeu. L'ordinateur, la console sera directement connectée à notre cerveau. C'est en tout cas la vision de Gabe Newell, le cofondateur de Valve, l'éditeur d'un célèbre jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Half-Life. Il a été interviewé, ce fameux Gabe Newell, pardon, il a évoqué longuement sa vision future du jeu vidéo associée à ce qu'on appelle des interfaces neuronales directes, c'est-à-dire des interfaces cerveau-ordinateur. Et pour lui, ces interfaces permettront aux joueurs d'aller au-delà de leur sens, qu'ils aient perdu la vue ou l'usage de leurs mains, on pourra continuer à jouer. Les mains, les yeux, en effet, n'auront plus d'importance puisque ce seront totalement superflus. Ces accessoires nécessaires dans le monde réel ne vont plus servir. dans le virtuel, et c'est pas de la théorie. Game Neville a rappelé que sa société avait signé dernièrement un partenariat avec une société qui est spécialisée justement dans ces interfaces cerveau-ordinateur, et cette association devrait permettre de créer un produit grand public qui puisse s'intégrer, par exemple, dans un casque audio dans un premier temps. Il pourrait alors interpréter les signaux cérébraux et communiquer de façon bilatérale avec le cerveau. Et ces derniers temps, notamment dès le mois de novembre, eh bien, cette société spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur avait également indiqué qu'elle était en train de développer une solution qui pourrait être conçue pour les casques à réalité virtuelle. Et donc l'idée à terme, eh bien, c'est de pouvoir essayer d'intégrer un électroencéphalogramme, mais aussi des capteurs de mouvement des muscles et des nerfs qui les contrôlent, d'autres qui vont servir à relever le mouvement des yeux, d'autres qui vont pouvoir relever les propriétés de conduction de la peau, également des capteurs de fréquence cardiaque. Tous ces équipements vont être essentiellement exploités par la médecine pour les diagnostics, et bien sera associé également pour évaluer les émotions humaines et les expressions faciales. Alors ces données, elle permettrait alors aux développeurs de jeux de pouvoir les adapter pour aller encore plus loin dans l'expérience d'immersion. Et donc Gabe Neville estime également que les découvertes dans ce domaine sont tellement rapides qu'il ne faudrait surtout pas créer un produit dès maintenant. Il viendrait un petit peu verrouiller le développement de ces technologies. En revanche, pour lui, d'ici 2022, donc en clair d'ici l'année prochaine, les studios devraient se mettre sérieusement à tester ces équipements et penser les jeux vidéo autour de ces technologies. L'avenir est là désormais, c'est-à-dire qu'on se mettra un casque qui va directement communiquer avec notre cerveau. Le casque va récupérer des informations, mais pourra aussi transmettre des informations au cerveau. On parle bien d'une communication bilatérale. Et du coup, on pourra avoir l'impression d'évoluer dans le virtuel comme si nous étions dans le réel, avec peut-être de plus en plus des sensations que notre corps pourrait ressentir. Et peut-être, je ne sais pas, au niveau des muscles, au niveau de la peau et ainsi de suite. Ça va être ça l'avenir, en fait. On en est quand même très loin de notre bon vieux Pac-Man, bien évidemment. Mais là, on est dans ce domaine-là. Et ce n'est pas la première fois que ce genre d'article est évoqué dans cette émission. On est en termes de réalité virtuelle et dans des solutions technologiques qui nous dépassent un peu tellement ça va vite, en fait. Et on suivra ça, bien évidemment, car les premiers prototypes, les premiers exemples, on nous les annonce pour l'année prochaine. On va pouvoir commander ça pour Noël, mon sang. C'est quand même pas mal. Allez, on écoute encore un autre titre et on se retrouve juste après pour continuer, bien sûr, à développer l'actualité scientifique sur Graphite.
Qu'est-ce que j'entends ? J'entends des airs, j'entends vraiment, je te le jure, ça fait longtemps, la vie entière, j'entends des chants, ça j'en suis sûr. Ça vient de où ? Ça vient du haut ou du dessous ? Je sais pas trop, là tout à coup, comme un écho. Ce qu'elle me joue, c'est tellement beau. Oui, toutes ces sirènes dans ma tête. C'est tellement beau. Oui, toutes les promesses qu'elles m'ont faites. Qu'est-ce que j'entends ? J'entends des airs, j'entends souvent, ça me rassure. Depuis tout ce temps, je me laisse faire. C'est tellement franc, c'est tellement pur. Et tout en cœur, elles me font croire. Toutes les couleurs, toutes les histoires, si tu savais, j'entends des mots, c'est tellement vrai, c'est tellement beau, oui, toutes ces sirènes dans ma tête. C'est tellement beau, oui, toutes les promesses qu'elles m'ont faites. C'est tellement beau, toutes ces sirènes dans ma tête. C'est tellement beau, non, je ne veux pas qu'elles s'arrêtent. Un peu, tu n'entends pas, ferme les yeux et tu verras, c'est merveilleux, toutes ces voix, si tu le veux, tu entendras.
Mathieu Bogart avec J'entends des airs sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, hein, en direct ou en différé, parce que je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts. Vous pouvez nous suivre maintenant depuis plusieurs semaines directement sur Facebook Live avec la webcam qui est branchée dans le studio et avec la réalisation et l'habillage également vidéo de ceci. Je vais y arriver, assuré par Mathéo, bien sûr, directement sur la page Facebook de Graphite. Bref, tous les moyens sont bons pour pouvoir nous suivre, bien évidemment, et pour pouvoir être fidèle et curieux de l'ensemble des émissions de Graphite. Biotine s'intéresse à l'actualité scientifique et en fait on a appris la mort récemment d'Isaac Kalatnikov. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un petit peu aller dans l'histoire du XXe siècle qui repose aussi sur la guerre froide qui avait en partie séparé des grands physiciens du XXe siècle et certaines découvertes qui avaient été attribuées à des chercheurs de l'Ouest en fait avaient déjà été faites par des chercheurs du bloc soviétique. C'est ce qu'on on a réalisé ça notamment après la chute du mur de Berlin. Il y a des stars de la physique russe qui sont très connues dans leur patrie, qu'ils ne sont pas du tout en Europe ou aux États-Unis, sauf d'un milieu très spécialisé. Et une de ces stars de la physique du temps de l'Union soviétique, même après d'ailleurs, vient de décéder à l'âge de 101 ans. C'était le 9 janvier dernier à Tchernogolovka, petite ville de la banlieue de Moscou. Il s'agit d'Isaac Kalatnikov, je vais y arriver. Il était né le 17 octobre 1919 en Ukraine. Il avait participé à la Grande Guerre patriotique contre l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la démobilisation, il a fait partie des personnes sélectionnées pour devenir un des étudiants en physique théorique du grand Lev Landau. Il sera à l'origine avec lui d'importants travaux concernant la physique des superfluides. Et avec Landau, eh bien, il va contribuer à la création des armes nucléaires soviétiques. C'est l'un des derniers élèves de Landau et l'un des derniers créateurs de la bombe atomique russe qui vient donc de nous quitter. Alors, bien évidemment, il n'y a rien de vraiment très glorieux à avoir participé, bien sûr, à la création des bombes A et des bombes H, mais la tâche était quand même si difficile que seuls des physiciens d'exception pouvaient y parvenir, et parmi eux donc Isaac Kalatnikov, qui deviendra d'ailleurs par la suite directeur de l'Institut de physique théorique et membre de l'Académie des sciences de l'URSS en 1984. Et il va se tourner ensuite, au début des années 60, vers l'astrophysique et la cosmologie relativiste. Alors là, c'est des domaines que je ne maîtrise pas du tout. Et il va se pencher sur ce qu'on considère comme l'un des plus importants problèmes non résolus de la physique moderne, l'existence d'une singularité en cosmologie ou plus généralement ce qu'il se passe lors de l'effondrement d'une étoile. Donc effectivement, à partir de là, ce domaine-là, je ne le maîtrise pas, donc je ne vais pas aller plus loin dans la biographie de ce grand scientifique. En tout cas, il est l'un des théoriciens de la singularité du Big Bang et donc, comme je l'ai dit, co-créateur de la bombe A. Rus. Il est donc décédé à l'âge de 101 ans. Isaac Kalatnikov, décédé le 9 janvier de cette année, près de Moscou. Et du coup, voilà, c'est un petit peu l'une des dernières pages de cette recherche sur la physique nucléaire qui se tourne aujourd'hui avec la mort de Kalatnikov. Et c'était important quand même de l'évoquer dans cette émission. On va parler d'objets connectés qui maintenant va être un petit peu le quotidien de notre vie. Des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des badges d'accès, des équipements de la maison, hein, ce qu'on appelle la domotique. Eh bien, on estime que d'ici 2025, hein, donc dans quelques années, là, 2-3 ans, le monde comptera 41 milliards d'objets connectés. C'est un rythme de croissance effréné qui pose le problème de l'alimentation en énergie de tous ces appareils. C'est bien tout le problème, hein. C'est génial ces appareils connectés. Mais bon, c'est quand même totalement dépendant d'une source énergétique. Et donc, pour contourner les piles ou les batteries au lithium, eh bien, il y a une start-up française qui s'appelle Dracula Technologies. Alors ça, faut quand même se dire qu'il y en a qui osent tout et qui osent appeler leur start-up Dracula Technologies. Eh bien, n'empêche, ils ont mis au point des modules photovoltaïques capables de générer de l'électricité à partir de la lumière ambiante, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit artificielle. L'innovation de cette start-up a d'ailleurs été sélectionnée parmi les lauréats des prix de l'innovation du fameux CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show. C'est-à-dire, je vous en parle depuis 3-4 semaines maintenant sur cette antenne, ce fameux salon international des innovations technologiques. Ça se tient tous les ans à Las Vegas en janvier. Sauf que là, cette année, ça s'est fait évidemment en distanciel, en visioconférence. Mais il y a quand même eu des prix de l'innovation. Et cette innovation a donc été sélectionnée parmi les lauréats de ces prix d'innovation. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que grâce à ces modules, eh bien, les objets vont pouvoir être autonomes en énergie et utilisables à l'intérieur de bâtiments ou d'usines. Les cellules solaires classiques en silicium sont très efficaces en lumière extérieure, les fameux panneaux solaires que l'on connaît, mais peu performantes en intérieur où la luminosité est 10 à 1000 fois inférieure. C'est, s'explique le directeur technique chez Dracula Technologies. Il s'appelle Sadok Ben Dkil, je vais y arriver. Les cellules photovoltaïques, donc les panneaux solaires organiques, captent un spectre lumineux différent, ce qui les rend plus efficaces avec des lampes LED, des lampes fluorescentes qui sont majoritairement utilisées pour l'éclairage intérieur. Et donc, ils ont mis au point un système qui repose sur la maîtrise d'un procédé de fabrication des cellules photovoltaïques organiques par impression numérique. Les modules sont constitués de 5 couches de matériaux, photosensibles pour les unes, conductrices pour les autres, un peu comme un millefeuille. Hein. C'est ce qu'explique le directeur et le fondateur de Dracula Technologies, il s'appelle Brice Cruchon. L'ensemble, en fait, on va pouvoir le mettre, l'encapsuler sur un espèce de support en polyéthylène souple, flexible, de manière à être totalement étanche aux aléas climatiques, étanche à la poussière et va être équipé d'une espèce de connectique qui va permettre de l'intégrer à n'importe quel support. Et c'est ça qui est intéressant. Le module peut ainsi adopter une forme un peu prédéfinie. Par exemple, pourquoi pas le logo d'une marque, ça pourrait être intéressant. Et contrairement aux cellules photovoltaïques classiques, donc les panneaux solaires classiques que l'on connaît en silicium, eh bien ces modules sont remplaçables et entièrement recyclables. Ils nécessitent très peu de matières premières, à peine 1 gramme de matériaux organiques pour un mètre carré de panneaux solaires. Donc le module fournit une faible quantité d'énergie, mais cette faible quantité d'énergie, elle est suffisamment intéressante pour rendre autonome un capteur de température, pour rendre autonome un interrupteur, un détecteur de présence. Et donc, du coup, ils ont réussi à pouvoir développer cette technologie protégée par 6 brevets, une soixantaine de publications scientifiques et ils se sont associés à des partenaires comme le CNRS, l'Université d'Aix-Marseille, Airbus. Ils viennent de lever 2 200 000 euros pour lancer la pré-industrialisation de cette technologie. Et cette levée de fonds a été complétée également par d'autres subventions qui vont leur permettre justement à ces Français de pouvoir développer cette technologie qui va donc permettre à des objets connectés d'être totalement autonomes en énergie grâce à la lumière et notamment à la lumière intérieure. C'est vrai que d'un point de vue purement technologique, c'est une véritable trouvaille. Parce que ça peut avoir des applications vraiment importantes. L'idée, c'est qu'on peut utiliser une ressource de lumière à l'intérieur, donc pas nécessairement puissante, qui va aboutir à une production d'énergie pas importante, mais qui va permettre, dans un premier temps, de pouvoir alimenter des dispositifs qui ne nécessitent pas d'avoir une source d'énergie vraiment puissante. Donc, bravo Cocorico à Dracula Technologies. Voilà, on aura bien ri de leur nom, mais on aura quand même du respect pour ce qu'ils ont réussi à développer, bien évidemment. Allez, on écoute encore un titre et on continue à pouvoir développer l'actualité scientifique. On va parler de cette porte connectée d'un nouveau genre qui concerne les chiens. Et oui, on parle de tout dans cette émission.
Il y a des villes sur lesquelles on écrit trop.
Les villes capitales des pensées inutiles.
Qui sont toujours de trop.
Il y a des villes où l'on ne peut plus aller. Parce qu'elles sont trop lourdes, trop chargées.
Il y a des villes qu'on aimerait oublier.
Des rues et des trottoirs qu'on ne voudrait jamais avoir foulés. Parce qu'ils relancent les idées noires.
Parce qu'ils ravivent les désespoirs.
Même quand on fait tout pour oublier. Aveugle et sourde aux sentiments, elle sème le trouble dans nos instants perdus. Nos instants perdus dans les attentes. Perdu, au coin des rues. Il y a des villes dans lesquelles on marche
sans avancer.
On se perd au hasard du goudron,
au hasard des pensées qui tracent les chemins.
Ce sont des villes à en perdre la foi. Ce sont des villes où être humain devient un exploit.
Il y a des villes que l'on aimerait vider
pour tout recommencer. Il y a des villes que l'on aimerait raser.
Comme on rase un immeuble.
Comme on coupe un lien pour effacer les traces. Aveugle et sourde aux sentiments, elle sème le trouble dans nos instants perdus. Nos instants perdus dans les attentes perdues de vue au coin des rues. Il y a des villes comme ça.
Il y a des villes comme ça.
Au coin des rues. Ce sont des villes qui sont toujours froides.
Au coin des rues.
Au coin des rues. Il y a des villes comme ça.
C'était Programme avec Au coin des rues sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, on se tient au courant de ce qui se passe sur Terre, dans l'espace et ce qui se passe à Las Vegas, notamment au mois de janvier. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on a quelques informations sur ce qui se passe dans ce fameux salon international. C'est un peu le festival de Cannes des innovations technologiques. Il faut être à Las Vegas en janvier. Sauf que là, ce n'était pas la peine d'y être puisque tout s'est fait à distance. Et il y a des innovations technologiques qui sont proposées. Alors, il y a des choses totalement bluffantes d'un point de vue technologique et qui sont assez prometteuses parce qu'on se dit que voilà, ça va être notre quotidien dans quelques temps. Et puis, il y a aussi des choses parfois totalement loufoques. Et il y a un moment aussi dans cette émission où il faut avoir une respiration un peu loufoque, voilà, un petit peu originale, parce que les sujets que je vais parler après ne sont pas nécessairement drôles. Donc là, j'ai voulu vous parler de cette porte connectée qui concerne nos animaux. Alors les chats, c'est facile, hein, parce qu'eux, ils sont libres de leur mouvement. Ils peuvent utiliser une chatière pour aller et venir en dehors de la maison. Alors les chiens, c'est quand même pas facile. Ils sont un peu plus dépendants du bon vouloir de leur maître pour pouvoir sortir. Et donc, pour essayer de remédier à cette inégalité que personne ne peut admettre dans le monde, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autre problème, il n'y a que celui-ci, des ingénieurs viennent de mettre au point une porte pour animaux de compagnie, une porte connectée, automatisée et activable à distance. Elle est conçue par le spécialiste américain du portail de garage, spécialiste qui s'appelle Chamberlain, ou Chamberlain peut-être, hein, ça fait peut-être en américain, on dit peut-être Chamberlain. Cette porte offre une liberté inédite aux chiens, ils sont heureux, bien évidemment sous réserve qu'ils aient accès à un lieu clôturé et protégé, et donc ils peuvent sortir lorsqu'ils en ont envie, même lorsqu'ils sont seuls à la maison. En fait, le dispositif remplace en fait une porte extérieure classique et comprend dans sa partie inférieure une espèce de mécanisme d'ouverture intelligent. Et grâce à cette porte connectée, eh bien, vont pouvoir manifester leur envie de sortir, même si leur maître est loin d'eux. Donc le chien, il doit être équipé d'un collier relié en Bluetooth à un capteur placé sur la porte pour signaler qu'il veut sortir. Et il suffit pour cela qu'il s'approche de la porte. Et donc son maître, il va être prévenu, même à distance, et il pourra, s'il le souhaite, ouvrir la porte à distance. Il y a une caméra qui est placée sur chaque côté de la porte qui permet d'observer son chien. On pourra même lui parler en direct, ce qui pourra bien sûr le mettre en confiance. Et donc, à chaque fois que le chien s'approche de la porte, le maître peut avoir la possibilité d'ouvrir la porte ou non, parce qu'il y a des moments où il lui dira non et tu resteras là, derrière ta porte fermée. Et si c'est le cas, eh bien, le chien, il pourra donc soit sortir dehors, notamment s'il veut satisfaire un besoin naturel, bien évidemment, et puis il est aussi possible d'opter pour un mode d'ouverture automatique, c'est-à-dire qu'on va choisir des plages horaires où la porte sera ouverte et d'autres, elle sera fermée. Ça devient compliqué tout ça à programmer, mais c'est pas grave, et chaque allée et venue est automatiquement enregistrée dans une application dédiée directement sur nos smartphones, comme ça on aura une quantité de données encore qui vont polluer tous nos serveurs data center. En bref, ça a été donc présenté à Las Vegas. C'est une porte qui est d'ores et déjà disponible en précommande aux États-Unis à partir de cette somme modique de $2,990. C'est rien pour une porte. Et première livraison prévue dès le printemps. Voilà, c'est ça la technologie en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on arrive à proposer des choses qui sont totalement révolutionnaires et qui vont changer le cours du monde, bien sûr. Alors, comme on parle un petit peu de digitalisation, non, c'est pas du tout ça que je voulais évoquer, non, pardon. Le mec qui sait plus. Non, j'étais tombé sur un article où on avait déjà un petit peu parlé des drones et de l'armée. Et en fait, il y a un article qui explique que cela fait plus de 2 décennies que la plupart des forces armées de la planète s'exercent au combat en milieu urbain dense. Et donc, dans ces zones, les risques sont importants, bien sûr, pour les soldats en raison de la grande proximité avec l'ennemi et ceux liés également aux environnements confinés. Et donc, pour détecter, identifier et éventuellement éliminer les cibles, eh bien, c'est un drone que l'armée britannique souhaite employer. Et donc, il y a eu un cliché qui a été récupéré par le magazine Times, qui a été publié, c'était en automne dernier, un drone tueur qui ressemble pratiquement en fait, à un jouet pour pilotes débutants là, qu'on peut des fois s'acheter, avec six rotors et leurs arceaux de protection. Alors, c'est toujours à l'état de prototype, bien sûr. Pourtant, c'est une redoutable machine à tuer. Cet engin est assez imposant puisqu'il mesure quand même 1 mètre d'envergure. Alors, ce volume, ça lui permet d'embarquer de l'armement et de pouvoir utiliser cet armement. Et c'est tout l'intérêt, bien évidemment. Ainsi, il y a des tests de ce drone qui ont été effectués, si bien qu'on apprend que ce drone peut emporter 2 canons de fusil de chasse quand même. C'est déjà pas mal. Une arme qui n'est pas forcément létale, mais enfin qui peut faire pas mal de dégâts, qui peut engendrer de graves blessures dans un environnement fermé. En revanche, selon le type d'opération à mener, le drone peut emporter aussi d'autres armements, mais ce n'est pas tout, puisque l'une des difficultés des drones volant à l'intérieur repose sur les effets de surface. Et donc, lorsque l'aéronef s'approche des murs, les sols et les plafonds, eh bien, il y a des reflux un petit peu d'air qui vont être induits par le rotor, qui vont déstabiliser le drone et ça engendre souvent un crash. Eh bien, ce phénomène, il va être amplifié si le drone, il emporte une charge assez importante. Ça le déstabilise encore plus et du coup, on veut essayer d'éviter cela. C'est vrai que ça serait un petit peu dommage. Et l'appareil est dopé, bien évidemment, à l'intelligence artificielle qui va embarquer une technologie qui va reposer sur la physique. Et cette technologie, elle est totalement tenue secrète par l'armée britannique, si bien qu'on ne sait absolument pas ce qu'elle technologie a été employée, mais on sait que c'est de l'intelligence artificielle qui sera impliquée là-dedans, sans doute. C'est également l'intelligence artificielle qui permettra l'identification des ennemis. En revanche, comme c'est encore le cas pour tous les pays qui utilisent un peu des robots tueurs, eh bien, c'est toujours, pour l'instant, l'opérateur humain qui, lui, décidera de l'opportunité de tirer ou non. Jusqu'à maintenant, parce qu'après, allez savoir, on pourra, grâce à l'intelligence artificielle, ne plus rien faire. Enfin, ça se fera tout seul et nous resterons tous ensemble dans nos canapés à siroter un soda et à écouter Biotine tous les samedis, bien évidemment. Allez, juste avant la fin de cette émission, un dernier titre et on terminera avec une dernière petite information avant de nous quitter. À tout de suite.
Again, again, again. Every day I'm everywhere, 'cause I'm the one who doesn't care.
Waouh, ça réveille, ça fait du bien. Snafu Grand Désordre Orchestre avec You Don't Like the Song sur l'antenne de Graphite. Avant de nous quitter, parce que c'est bientôt 13h, cette dernière information qui était assez intéressante. On se rend compte que ce n'est pas que les rats et les souris qui sont les seuls à résoudre des labyrinthes en laboratoire. Il y a, on le sait, certaines bactéries qui sont capables d'utiliser leur corps entier à la manière des yeux pour essayer de se déplacer. Et puis, il y a aussi des organismes unicellulaires, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule cellule, qui préfèrent s'appuyer sur des indices chimiques fournis par leur environnement pour se repérer. Ça, ça existe, on le connaît, c'est ce qu'on appelle la chimiotaxie, cette manière justement qu'ils ont pour pouvoir diriger leurs mouvements en fonction de ces signaux chimiques. Et ce phénomène a généralement lieu sur de courtes distances, moins d'un demi-millimètre, parce que sinon le signal chimique va s'atténuer jusqu'à devenir imperceptible. Alors, comment certaines cellules parviennent-elles à se diriger sur de plus grandes distances ? Comment font-elles pour se repérer au cœur d'un labyrinthe microscopique placé sur leur trajectoire par des chercheurs ? Eh bien, c'est ce qu'ils ont décidé d'en savoir un peu plus, cette équipe, l'équipe de Luke Tweedy et de Mitchell Zagnoni, qui ont essayé de travailler sur deux candidats, une amibe et une cellule cancéreuse responsable des tumeurs du pancréas chez la souris. Et ils ont travaillé donc sur ces cellules, je vais y arriver, et ils ont créé plusieurs labyrinthes en silicone qui totalement microscopique avec divers degrés de complexité qui vont imiter les chemins tortueux empruntés sous terre par l'amibe et suivis dans les vaisseaux sanguins par les cellules cancéreuses. Il y a même un niveau expert qui a été développé pour le labyrinthe, c'est celui qui représente le motif du labyrinthe présent dans les jardins du château londonien de Hampton Court. Hein, et ça, c'est vraiment le niveau expert. Si tu sors de ce labyrinthe, c'est que tu es vraiment une superbe cellule cancéreuse. Et ça a permis en fait, de mettre à l'épreuve l'endurance des amibes qui sont plus rapides que les cellules cancéreuses dans ces cas-là. Et chaque labyrinthe comportait à sa sortie une espèce d'appât un petit peu chimique qui va permettre d'attirer justement ces cellules et ces amibes. Et on a donc filmé tout ça, on a fait des films accélérés, les fameux time-lapse, qui montrent justement comment ces foules microscopiques en fait, traversent avec succès ces différents labyrinthes. Et en explorant les branches du labyrinthe, eh bien, les amibes elles ont rapidement pu constater que les parois des impasses, donc là où ça menait à rien, elles abritaient moins de molécules d'appât chimique que la trajectoire qui menait à la sortie. Et en fait, c'est un petit peu comme des chiens de chasse, c'est-à-dire qu'elles ont pu résoudre cette énigme grâce à une espèce de nez entre guillemets un petit peu surdéveloppé. Et en temps normal, les amibes en tête de ligne auraient un petit peu comme à la manière des fourmis, laissé derrière elles comme une sorte d'empreinte chimique, ce qui va permettre aux suivantes de suivre le même chemin. Et là, les chercheurs se sont dit, attention, on va faire en sorte par une subtile modification d'interrompre cette communication et de faire en sorte qu'elle ne laisse pas de traces chimiques. Si bien que les suiveuses, eh bien, elles ont été un petit peu plus perdues finalement. Et c'est là que l'on s'est rendu compte qu'il y avait bien des éléments chimiques qui étaient laissés comme traces pour pouvoir permettre d'un côté aux amibes de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B à partir du moment où ce point B est intéressant pour elles. Et bien évidemment, l'idée, c'est d'essayer de comprendre aussi comment des cellules cancéreuses se propagent, pourquoi elles vont de tel à tel endroit, comment elles se propagent. Également pour les cellules fœtales, également comment elles s'orientent pour se fixer dans leur position finale. C'est des éléments qu'on ne connaît pas. On a encore des soupçons, on a quelques intuitions. Mais là, c'est assez intéressant dans cet article de voir que finalement, on commence à découvrir de plus en plus d'éléments dans ces domaines-là. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne vous cache pas que cette émission étant enregistrée, je suis incapable de vous dire si les conditions sanitaires me permettront d'être à l'antenne samedi prochain. Dans tous les cas, soit je vous retrouve avec grand plaisir samedi prochain, soit, bien évidemment, il y aura toujours des émissions Graphite, quelle que soit la situation, et toujours à l'antenne et vous accompagne, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.